d'économie.
La corruption reste encore un grand défi à relever en République démocratique du Congo. Après une dizaine d'années de lutte, l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle dresse un bilan négatif et demande au Parlement de voter des lois qui luttent contre la corruption. L'heure est au préparatif de l'élaboration du rapport ICIE 2012. Au Katanga, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives sensibilise les entreprises minières et pétrolières. L'interdiction d'importer des véhicules de plus de 10 ans revient à la une. Dans le Bas-Congo, près de 7000 signatures ont été collectées pour que cette décision du gouvernement soit levée. Bonsoir et bienvenue à tous. L'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, OCEP en sigle, estime que, après 12 ans de lutte contre la corruption, les résultats obtenus ne sont que maigres. Le DG de cette structure l'a déclaré ce jeudi à la clôture d'un séminaire atelier organisé par l'OCEP, séminaire à l'issue duquel les participants ont formulé des recommandations, entre autres au Parlement d'exercer de manière effective son pouvoir de contrôle et de voter des lois qui luttent contre la corruption. Les propos d'Émile Moutambaï, rapporteur du séminaire, sont recueillis par Nadine Foulantimba.
Au Parlement, adopter et voter dans les meilleurs délais les lois anticorruption, lois ordinaires et organiques, exemple la déclaration du patrimoine. Diligenter des contrôles parlementaires avec proposition de sanctions. Allouer un budget conséquent à la Cour des comptes pour remplir sa mission au gouvernement. Mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Créer une banque de données de délinquants éthiques. Faire signer l'acte d'engagement éthique aux mandataires publics, ministres et aux 17 catégories d'agents publics de l'État. Créer un corps d'inspecteurs académiques pour identifier et sanctionner les actes de corruption. Doter les services ou structures qui luttent contre la corruption d'un budget autonome conséquent au pouvoir judiciaire. Appliquer la sanction à l'endroit des corrupteurs et corrompus. Enjoindre la justice à travers les cours et tribunaux à rechercher et à poursuivre les actes de corruption, sanctionner les magistrats véreux, à la société civile, sanctionner et accompagner la population à la culture et à l'émergence de valeurs éthiques, s'organiser effectivement pour être efficace, conscientiser le peuple congolais et vulgariser les instruments juridiques internationaux et nationaux qui luttent contre la corruption.
Retenez qu'à la même occasion, il y a eu création d'une plateforme dénommée Club des hommes et des femmes intègres du Congo, CHICO en sigle, une synergie multi-acteurs composée des hommes qui s'engagent à lutter contre la corruption. Mais pour l'instant, je vous propose cet élément dans lequel Nadine Foula nous parle de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle.
L'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, OCEP, est un service public à caractère technique et moral. Il a été institué le 3 octobre 2002 par les décrets de loi numéro 017/2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. L'OCEP est une structure opérationnelle chargée de la mise en œuvre de l'axe promotion de l'éthique, de la déontologie et lutte contre la corruption. Il oriente la politique du gouvernement en matière d'éthique professionnelle, de prévention et de lutte contre la corruption. Parmi les missions principales de l'OCEP, on peut noter la promotion, la diffusion, la vulgarisation et le suivi du code de conduite de l'agent public de l'État dans les milieux professionnels et auprès du public. Il veille aussi à tout instant à la bonne application du code et propose aux autorités compétentes les mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les violations des dispositions du code. Et enfin, l'OCEP publie un rapport annuel sur l'application et l'efficacité du code de conduite de l'agent public de l'État. Disons d'une manière générale que l'OCEP se veut comme un organe qui suscite la culture du travail et de la bonne gestion de la chose publique pour redonner à l'administration publique congolaise ses lettres de noblesse, contribuer à l'érection d'une administration de développement, c'est-à-dire créatrice de richesses. Parmi ses réalisations, l'OCEP compte à son actif le lancement en mars 2003 de la campagne nationale de vulgarisation du code de conduite de l'agent public de l'État en Mbujimayi, la signature de plusieurs actes d'engagement éthique. On peut aussi noter l'organisation en décembre 2009 du premier forum national sur la lutte contre la corruption en RDC, la tenue en 2010 de la table ronde des experts sur la lutte contre la corruption et très récemment le séminaire atelier d'évaluation des efforts de la RDC en gouvernance et lutte contre la corruption organisée de mardi jusqu'à jeudi dernier à Kinshasa. Je voulais annoncer, l'heure est au préparatif de l'élaboration du rapport ITE 2012 prévu pour ce mois de décembre. Au Katanga, cette structure passe à la sensibilisation des entreprises minières et pétrolières, comme nous l'explique le numéro 1 de l'ITE en RDC, Mac Doumba, est au micro de Colin Djuma Moussampo.
Nous n'avons plus beaucoup de temps, il nous reste à peine 3 mois pour publier ce rapport, 3 mois et demi. Ce que je dois leur demander, c'est de s'adonner à la formation pour l'utilisation du logiciel, à fournir les informations. Les experts du secrétariat technique vont les accompagner pour leur faciliter la saisie des informations dans le logiciel et la transformation de celles-ci auprès de l'administrateur indépendant chargé de la réconciliation. Aucune entreprise ne doit rester en reste. Nous voulons demander à ce que, à côté des entreprises, les régies financières aussi, qui nous ont fait un grand plaisir, que nous félicitons aussi, nous leur demandons de pousser nos partenaires de tous les jours, les points focaux, à se former à l'utilisation, à fournir les données dans les registres, dans les formulaires qui leur sont expliqués pour le moment par les experts, de sorte que d'ici une quinzaine de jours, nous ayons déjà les premières données du rapport 2012.
Pendant ce temps, à Kisangani, l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP a débuté ce jeudi une formation des formateurs de cette institution. La formation bénéficie de la collaboration de l'Agence française de développement. Elle porte sur l'ingénierie pédagogique. Le thème principal est axé sur l'écriture de révérentiel, tel que nous l'explique Maxime Mémoire Bapeke, l'actuel directeur de l'INPP à Kisangani. Il est au micro de Dorcas Kanko.
Normalement, la formation professionnelle doit s'appuyer sur les besoins du marché de l'emploi. On ne forme que les gens qui doivent être consommés par le milieu professionnel. L'approche par compétences nous permet de connaître les exigences de chaque emploi pour que nous puissions établir un programme qui tient compte de ces exigences-là. Il faut se référer aux aptitudes, aux compétences que la personne qui sera formée sera appelée à utiliser sur le marché du travail. Nous avons organisé une enquête auprès des entreprises de la place. C'est une enquête qui a été organisée il y a pratiquement 3 semaines. Alors, ils nous ont exprimé leurs besoins et les personnels qui pensent recruter dans 2-3 ans. Alors, c'est ce qui nous a permis de comprendre leurs besoins et à partir de là, nous avons établi le programme de cette formation-là.
Écho d'économie. Direction le Bas-Congo, où les opérateurs économiques déclarent travailler difficilement à cause d'une pression fiscale qui a pris de l'ampleur ces derniers temps. Jean-Luc Bekama, deuxième vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, antenne provinciale, qui s'est confié ce vendredi à Radio Capi, précise que cette situation entraîne la disparition à ce jour de certaines entreprises. On écoute donc Jean-Luc Bekama au micro de Guy Roger Nyampala.
Nous aurons souhaité être moins tracassés et une pression fiscale très très forte qui s'exerce sur les entreprises, parce qu'aujourd'hui vous avez la DGI, vous avez en même temps la REPER, vous avez tout ce qu'il y a comme recouvrement des régies financières. Toute cette pression fiscale fait que les opérateurs économiques ont du mal à décoller. On a toujours demandé au gouvernement de travailler avec les opérateurs économiques dans un partenariat et avec beaucoup de transparence, de sorte que les décisions à prendre ou des décisions qui vont être prises puissent également tenir compte des difficultés que connaissent les opérateurs économiques dans l'exercice du métier. Quand il y a trop d'impôts, ça tue l'impôt. Quand la pression est forte, ça dépend de la survivance de plus d'actes. À ce moment-là, ça pose problème. Il n'y a plus d'aisance dans l'exercice. Mais nous croyons que les cris que nous avons toujours lancés en direction des autorités pourront être un jour comprises. Parce que ça ne sert à rien de parler de chiffres. Il faudrait que ces chiffres-là soient des chiffres palpables, réels.
Près de 7000 signatures ont été collectées à Matadi dans le Bas-Congo concernant le report que les habitants du Bas-Congo sollicitent auprès du gouvernement pour l'importation des véhicules de plus de 10 ans en RDC. Affirmation faite par le député national élu de Matadi ce jeudi à Radio Capi. Cette décision a des conséquences économiques néfastes dans la province, selon lui. Le député national élu de Matadi fustige cependant ce qu'il qualifie de mauvais comportement du gouvernement provincial qui empêche les actions qu'il a menées en ce sens à Matadi et à Boma. Ce mémo, a-t-il dit, sera déposé à la primature. On écoute Muller Lutelo Nyudi au micro de Dani Kindanzita.
Nous avons fait circuler la pétition pendant un mois et demi et à ce jour, nous avons à peu près 7000 signatures. Je ferai de mon mieux d'être reçu par le Premier ministre pour lui transmettre la pétition et lui faire savoir les avis de la population du Bas-Congo. Il y a eu vraiment des difficultés ici dans la ville de Matadi. Tout ce qu'on avait mis comme pancarte, comme banderole, ont été mis de côté. Nous avons été désagréablement surpris par les autorités de la province de ne pas accepter la pétition, de pouvoir enlever les banderoles, de pouvoir arrêter les gens et nous allons faire savoir cette situation à l'Assemblée parce que ce n'est pas correct. Nous allons attendre conformément à la Constitution et nous mènerons des actions immédiatement après. Nous n'allons pas laisser pourrir la situation parce que nous savons bien qu'il y a les chômages inacceptables à Boma tout comme à Matadi.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Julien Yamouni, mise en onde par Guy Mandangou et suivie par vous. Merci.